Radio Bac 30e, notre troisième partie prévoit Michel Pic, que nous avons déjà un petit peu entendu, mais quand même, Michel Pic, vous êtes candidat. Alors, comme on vient de le dire à l'instant, Monsieur Perea et d'autres, vous êtes candidat sur la deuxième circo, comme on dit familièrement, la deuxième circonscription de l'Aude, c'est-à-dire la Narbonnaise. Alors, justement, Monsieur Perea va être un de vos adversaires, un de vos concurrents. Comment voyez-vous cette investiture?
Écoutez, cette investiture au niveau local confirme, je crois, ce qui est apparu hier au niveau national, à la fois que ce mouvement donc En Marche apparaissait finalement comme une entreprise de recyclage d'anciens élus PS. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est François Bayrou, c'est François Bayrou qui l'a dit lui-même hier, et la situation ne fait que le confirmer, puisque Alain Perea était longtemps lui-même membre du Parti Socialiste jusqu'à temps qu'il en soit exclu lorsqu'il a apporté son soutien à Didier Coulorgnou.
Ce même mouvement quand même va ménager par exemple Monsieur le maire républicain dans sa circonscription.
Et NKM aussi.
NKM. Et Madame Kosciusko-Morizet aussi.
On verra ce qu'il en est. Je noterai que un certain nombre déjà d'élus républicains dont on avait dit qu'ils pourraient faire partie d'un gouvernement Macron ont déjà annoncé qu'ils n'en seraient pas ainsi. Et notamment, donc, Xavier Bertrand vient de le faire donc dans le Figaro. Mais d'autres se sont prononcés aussi ainsi. Voilà.
J'ajouterai
qu'un coup de... Que ce n'est pas parce qu'on est ripolliné en marche qu'on devient ou qu'on passe du jour au lendemain de vieux éléphants du PS à perdreau de l'année. Voilà, Monsieur Perea, ce n'est pas un perdreau de l'année sur ce territoire. Tout le monde le connaît bien. Voilà, et j'aurai donc à affronter dans cette élection législative 5 candidats de gauche. Voilà, je suis moi-même donc un candidat de la droite républicaine et du centre, puisque je bénéficie à la fois de l'investiture donc naturellement des républicains, mais également de l'UDI et de celle aussi de CPNT, Chasse Nature Pêche et Tradition. Vous le savez, je me suis toujours attaché à défendre les traditions, l'identité, la culture de ce territoire. La chasse en fait partie. Et j'ai sollicité cette investiture, elle m'a été aussi accordée.
Alors, Michel Pi, vous restez donc, vous venez de le dire clairement, dans le camp des Républicains. Tout le monde a suivi la situation nationale, la façon dont les choses se sont passées. Ça s'annonçait fort bien pour les Républicains, puis patatras qu'il y a eu cette affaire Fillon. Aujourd'hui, quelle va être la position que vous allez défendre sur votre circonscription?
Alors moi, effectivement, j'ai toujours été un homme de conviction et d'engagement. Vous le rappelez, j'ai été élu un 10 juin et j'ai, pour un gaulliste, je suis très attaché aux valeurs du gaullisme. Ça a été évidemment quelque chose d'une portée très forte pour moi. Donc je ne vais pas aujourd'hui comme ça, au gré des mouvements électoraux ou des vents, changer de ligne de conduite.
Donc gaulliste,
je porte toujours les mêmes valeurs. Mais être gaulliste, ça sous-tend aussi... une autre idée forte, c'est la défense de l'intérêt général. Et moi, je soutiens bien évidemment le programme des Républicains. J'ai des propositions à faire pour ce territoire, mais j'entends aussi être un député différent de cette circonscription, à savoir un député qui la défende, un député qui la fasse entendre aussi à Paris, mais qui sache aussi réagir et voter en fonction de l'intérêt général. C'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup.
Alors, on va revenir sur votre programme, mais un mot sur le choix de votre suppléante, qui est toujours significatif aussi.
Alors, j'ai effectivement demandé, j'en ai été heureux, à Florence Vitas de m'accompagner dans cette élection. Florence Vitas, c'est une personne donc qui est aujourd'hui pleinement dans la société civile. Je souhaitais aussi cette ouverture-là.
Mais engagée dans les municipalités, par exemple.
C'est une Narbonnaise. Et elle a été élue, effectivement, en tant que membre de Nouveau Narbonne, notamment de 2008 à 2014. C'est un profil complémentaire au mien et je suis très heureux que Florence ait accepté de m'accompagner dans cette aventure.
Oui, le fait qu'elle ait été Nouveau Narbonne, c'est pas anodin dans votre choix.
Écoutez, non, voilà, j'ai beaucoup de respect pour ce mouvement qui a été fondé donc par Hubert Mouly il y a de ça quelques années, qui a fait de grandes choses sur sur Narbonne. Il a transformé cette ville, il en a fait Nouveau Narbonne a fait de la ville de Narbonne la plus belle ville du département de l'Aude. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour ce mouvement-là.
Donc c'est, pas, et je c'est suis, une sorte d'hommage indirect.
Voilà, non, mais il s'agit d'être objectif dans l'analyse. Et Nouveau Narbonne est un mouvement qui occupe une place évidemment importante aussi sur la scène, on va dire, politique locale. Et voilà, Florence m'a paru être une bonne suppléante dans cette élection.
Ce choix. Alors, comment être gaulliste dans un département qui est depuis un siècle socialiste de manière récurrente? Quels sont les axes dans votre programme que vous allez mettre en valeur, défendre?
Qui est de moins en moins socialiste et son regard les scores électoraux et de plus en plus Front National.
Je faisais référence à l'histoire.
Voilà. C'est vrai qu'il n'est pas facile, lorsqu'on se définit gaulliste, de percer politiquement dans ce département. Mais enfin, bon, on a des valeurs, on n'en a pas. Et personnellement, j'en ai. Et donc, j'y tiens beaucoup. Cette élection, Michel le disait tout à l'heure, je crois aussi qu'elle a marqué nettement la rupture entre ce qu'on a appelé la France qui va bien et celle qui va moins bien. Et ça se traduit aussi, sur ce territoire, celle des villes un peu en quelque sorte et celle des champs. Moi, je veux évidemment m'adresser aux deux. Si j'ai adhéré au mouvement gaulliste et pas un autre, c'est parce que, évidemment, je crois à certaines valeurs, c'est celle du libéralisme, mais aussi je suis très attaché à la condition et à la situation des classes moyennes et des classes populaires, comme pouvait l'être le général de Gaulle.
Une parenthèse, dans ce deuxième tour, votre commune a donné la majorité à Monsieur Macron. Ça sous-entend que, en sous-main, vous avez œuvré pour ça.
Écoutez, moi, j'ai
vous êtes mobilisé probablement.
Voilà, on parle beaucoup du gaullisme ce matin. On ne peut pas être gaulliste et à la fois. Pactiser avec le Front National.
Une règle quasi mathématique pour vous.
Ce n'est pas compatible. Mais par contre, je comprends ce vote extrême qui peut être fait. Et donc je mettrai en avant dans cette élection législative, notamment toutes les dispositions en faveur des classes moyennes, des classes populaires, et notamment celles en faveur du pouvoir d'achat. Elles me paraissent très 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 importantes. Nous nous engageons, et je m'engage, comme je l'ai signalé hier, à soutenir dans ce programme des Républicains qui prévoit une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu pour tous les ménages et qui ne prévoit ni augmentation de TVA, ni augmentation de la CSG. Contrario du gouvernement, enfin du programme de M. Macron, qui lui prévoit une augmentation de la CSG de près de 2% pour tout le monde, ce qui fera une ponction sur le quinquennat supplémentaire de 14 milliards d'euros.
Oui, mais alors, où trouvez-vous l'argent? On connaît le déficit français.
Non, le programme qui est proposé par les Républicains est le seul, d'ailleurs, programme qui permettra le retour à l'équilibre des comptes publics. C'est une anomalie, on va dire, constitutionnelle que de pouvoir faire encore du déficit au niveau national. C'est interdit dans les communes. Aucun ménage, aucune famille n'accepterait de transmettre des dettes à ses enfants. C'est ce que fait le gouvernement français depuis des années et des années. Il faut y mettre fin. L'objectif du retour à l'équilibre est prioritaire. Comment on y parvient? On y parvient tout simplement parce que, par rapport au programme de M. Fillon, qui lui aussi avait cet objectif-là, mais qui avait une augmentation de la TVA, il a été décidé que l'allègement en direction des entreprises ne serait plus de 40 milliards, mais seulement de 26 milliards, ce qui nous permet de ne pas augmenter la TVA tout en respectant
l'allègement, c'est-à-dire le crédit d'impôt, ces choses-là.
Voilà, exactement, c'est ça.
Alors, c'est pas que je veuille faire, mais enfin, quand même, on va dire les choses de manière un peu plus précise, hein, Michel. Ça suppose aussi, quand même, avec la nouvelle plateforme qui a été présentée par Barouin, et c'est une des conditions pour permettre pour arriver à l'équilibre. L'on passe de 500 000 fonctionnaires à moins à combien 150 000, etc., etc. Donc, je veux dire que. Toutes les contreparties fait, qui avaient été présentées par Fillon pour effectivement arriver à l'équilibre, en fait, tombe là. Ça va être
le programme est financé, il permet le retour à l'équilibre. Sur la diminution du nombre d'emplois publics qui ne concerne pas que les fonctionnaires, l'effort reste le même, mais il sera atteint sur une plus longue durée, c'est-à-dire 7 ans au lieu de 5, parce qu'il y a une bosse démographique qui arrive au-delà de la cinquième année, qui va permettre de le respecter sans heurts, en fait, oui, sans violence.
Donc c'est un engagement.
En reprenant la règle du 1 sur 2 qui avait été mise en place durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy.
Et c'est un engagement sur 2 mandats, alors, 7 ans. Plus d'un mandat,
c'est
en tout cas.
C'est un engagement qui tient compte de la bosse démographique qui va avoir lieu dans la fonction publique d'ici quelques années. Je voudrais ensuite dire aux électeurs de la droite et du centre qui ont pu être tentés par le vote d'Emmanuel Macron au premier tour, que finalement, la meilleure solution pour que celui-ci applique un gouvernement, applique un programme ou un projet de droite, est de lui donner à l'Assemblée nationale une majorité de droite. C'est tout simplement de la cohérence.
Allez.
Oui.
Le Premier ministre.
Voilà. Monsieur le maire a déclaré qu'il était prêt éventuellement à y aller. Bon, donc on a bien compris, et c'est logique, monsieur, puis vous cherchez à obtenir une majorité. Et si vous ne l'obtenez pas, quel sera votre comportement?
Écoutez, on en reparlera à ce moment-là. L'élection présidentielle s'est faite dans l'ambiguïté. Elle n'a pas permis de trancher le projet politique. L'élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme et un peuple. Elle a eu lieu, elle a désigné Emmanuel Macron et je lui ai adressé mes félicitations républicaines. Les élections législatives sont la rencontre entre un projet et un peuple. Le débat n'a pas eu lieu à l'élection présidentielle. On a vu ce lamentable débat entre les deux tours. On n'a pas pu aller au fond. Et en fait, on a eu une élection qui a été pour ou contre Madame Le Pen et qui s'est transformée en contre Madame Le Pen. Il faut maintenant profiter des élections législatives pour trancher le débat sur le fond et sur le projet. Et les Républicains ont, il me semble, de ce point de vue-là, le projet qu'il faut au redressement de la France, que cela concerne donc les questions du pouvoir d'achat, de sécurité, ou même de la ruralité. Il y a un volet très important là-dessus, avec un engagement très très fort, à savoir que 1 euro en direction des villes doit automatiquement impliquer aussi 1 euro en direction de la ruralité et des campagnes.
Oui, une remarque, Michel.
Oui, une question à Michel. Puis au sein des Républicains, si j'ai bien lu, en fait, il y a plusieurs tendances qui s'opposent. Grosso modo, quoi. Hein, Laurent Wauquiez qui dit bon, on prend aux législatives, on enquille le maximum de députés et on sera dans une position frontale. Ça, c'est Laurent Wauquiez.
Oui, ça, c'est Monsieur Wauquiez.
Ouais, qui aspire effectivement à être le patron du Parti républicain. Puis il y a une autre composante qui dit non, pas du tout, notamment Juppé, hein, qui explique circonstanciellement et dossier par dossier, on verra si on convient, on votera pour. Quelle est votre position, vous, Michel Pille, dans cette
journée? Moi, l'objectif est de contribuer au succès des Républicains à l'occasion de ces élections législatives et de nous amener à avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour gouverner. Le président préside, le gouvernement gouverne avec l'Assemblée nationale. Si tel n'était pas le cas, je crois qu'une nouvelle donne s'ouvrirait, sa majorité à l'Assemblée nationale pour le président nouvellement élu, et qu'à ce moment-là...
Là, il y aurait un jeu d'alliance qui se discuterait.
Alliance, coalition à l'allemande, on verra bien comment les choses vont se passer, mais on ne peut pas aujourd'hui prendre d'engagement, signer de chèques en blanc. Toutes ces choses-là doivent se faire de manière réfléchie et sur des projets, sur des engagements.
Oui, et puis le Parti républicain, si je puis dire, a une revanche à prendre après les aléas de l'affaire Fillon, qui donnait à un moment une victoire quasi certaine il y a 4 mois.
Non, mais encore une fois, on ne pourra pas se dire à ce débat-là. Au sein même des Républicains, une fois effectivement les élections passées,
oui,
c'est le tour, à savoir
il y aura
qu'on fait, quoi,
hein. Des positionnements et des repositionnements.
Alors, je crois que ce que voulaient surtout les électeurs, aussi bien sur ce territoire qu'au niveau national, c'était une alternance franche avec ces 5 années du quinquennat Hollande qui nous auront mis donc au bord du gouffre. Certes, l'alternance franche n'a pas été possible à l'occasion de l'élection présidentielle. Elle est possible maintenant à l'occasion des élections législatives. Et moi, je porte celle-ci, je la porte pour l'incarner au niveau national, mais aussi au niveau de cette circonscription. Je voudrais dire que tout autre choix que le mien, de la part des électeurs, ne pourrait qu'aboutir en fait à la continuité, à remettre un jeton dans la machine au niveau local et à se retrouver avec les mêmes élus issus du même système, M. Perea, Mme Fabre, M. Loss, ont gouverné ensemble. Ils faisaient partie de l'équipe de Jacques Bascou en 2008 à la mairie de Narbonne. Ils géraient tout ça en même temps. C'est le même système, c'est la même provenance et voilà, il n'y aurait pas d'alternance ou de renouveau avec un de ces candidats. On a aussi montré que les voies vers les extrêmes aboutissaient au même résultat, à savoir l'élection d'un élu de la gauche. Ils sont 5 aujourd'hui, je le rappelle.
Oui. Alors Michel Py, on va peut-être conclure là-dessus. On a compris quel était votre combat. Vous avez dévoilé un certain nombre de points du programme national. Mais vous êtes sur la deuxième circonscription audoise, un pays de viticulture et de tourisme. Alors je parle des piliers de l'économie. Est-ce que vous avez là-dessus des projets ou des choses à défendre particulières? Et on terminera là-dessus.
Ou des lois, en fait, des propositions de loi à proposer. Parce qu'un député, bien entendu, il ne peut pas faire autre chose que cela.
Bien entendu.
Un député, il prend des engagements, mais moi, je veux aussi être différent sur la manière d'exercer le mandat. Cette circonscription, c'est une circonscription qui a été oubliée, abandonnée, méprisée, parce qu'elle n'a pas, depuis longtemps, d'interlocuteurs qui sachent se faire entendre à Paris. Oubliée comme l'a été oubliée la viticulture. Je ne remets pas en cause l'engagement de nos parlementaires. Mais ils n'ont obtenu aucun résultat. On a démarré le quinquennat de François Hollande avec une viticulture qui se portait bien. On la termine avec 4000 vignerons sur la place de Narbonne en train de manifester. Un député, c'est aussi bien évidemment un engagement de moyens, mais doit aussi obtenir des résultats. Ce n'est pas en se promenant dans les vignes pour faire des photos ou en déposant des propositions de loi en dernière minute que l'on fait sérieusement avancer ces dossiers-là. Cette circonscription a été abandonnée, comme en témoigne la situation du pont de Carcassonne, où on a attendu 3 ans, laisser fermer, mourir des commerces, avant que la ville, finalement, et heureusement, le reprenne, fasse des travaux pour le réouvrir cet été. Mais que l'État n'a-t-il fait durant ces 3 années pendant lesquelles il a été propriétaire du pont?
Alors pour vous, ça signifie quoi? Des projets de loi, comme disait Michel Santo, ou bien courir les ministères aussi, comme
Je voudrais aussi relever le mépris dans lequel on nous tient, qui n'est pas récent. Ce territoire, le Midi, nous les gens du Midi, les méridionaux, il y a bien longtemps que nous sommes tenus en mépris depuis Paris. Il faut que cela change. Le TGV en est une bonne illustration. Notre ligne est inscrite au schéma des lignes à grande vitesse depuis 1991. On peut aller aujourd'hui en TGV de Madrid à Bruxelles. Le TGV s'arrête à Perpignan. Il reprendra bientôt à Béziers. Il ne manque qu'un chaînon, c'est le département de l'Aude. Pourquoi on voudrait nous stigmatiser qu'on ne s'y prendrait pas autrement, différemment? Donc le travail d'un député, c'est bien évidemment de défendre les dossiers de sa circonscription, c'est de défendre les bons projets de loi, parce que ce qui est bon pour la France, c'est évidemment bon pour le territoire, bon pour la Narbonnaise, elle n'est pas utile. Et puis c'est aussi de faire un lobbying intense et engagé dans les circuits du pouvoir pour faire en sorte que les grands dossiers de ce territoire, enfin, puissent avancer.
Voilà, et celui du TGV en sera un, on a bien compris, monsieur Py. Merci.
Il y a condition qu'on renfloue les caisses de l'État et le réseau ferré de France.
Non, mais il n'y a pas eu besoin de renflouer les caisses de l'État pour voir avancer d'autres lignes à grande vitesse que la nôtre, dans l'Est que dans l'Ouest. Sauf que nous, on doit être fait depuis 92 et que rien n'avance.
Merci, Michel Py, d'être venu nous expliquer quels seront les axes de cette campagne. Alors on verra si elle s'annonce aussi imprévisible que la présidentielle, mais là, il est trop tôt pour le dire. Notre prochaine invitée, alors cette fois-ci, on laissera la politique un tout petit peu avant de retrouver M. Perea plus tard. Nous recevrons Bernard Archila, quelqu'un qui vient de marquer des points, si je puis dire, puisque le Racing, nous rappelons-le, est sauvé. Oui. Il reste en Pro D2.
À qui je transmets mes amitiés, mes félicitations. Il a fait un gros travail cette année à la tête du RCNM. Merci. Et on lui doit tous nos remerciements pour ce qu'il a fait.
Effectivement, il viendra nous raconter son année au prochain Radio Barque. Merci et à la semaine prochaine.
Merci à vous.